Bien, nous reprenons donc avec Stéphane Chauvier. Stéphane Chauvier est professeur à l'université de Paris-Sorbonne et son exposé portera sur la question de savoir si un décisionnisme épistémologique est possible. Je lui laisse tout de suite la parole.
Je vous remercie. Je remercie d'abord les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à y parler. Alors, je voudrais indiquer que l'exposé que je vais faire est une sorte d'essai, c'est-à-dire je vais explorer une possibilité. Je n'entends pas exposer des convictions, mais creuser une possibilité que je vais essayer de présenter, de définir. Alors, le thème de mon exposé pourra paraître paradoxal, voire peut-être provocateur, dans le cadre d'un colloque sur la reconstruction de la raison, car le concept de décisionnisme évoque usuellement une forme d'existentialisme ou d'irrationalisme et paraît donc antithétique de toute espèce de rationalisme. Deux motifs me paraissent toutefois militer, alors non pas en faveur du décisionnisme, mais en faveur d'une exploration de ce qui est impliqué par ce concept lorsqu'on le transporte du champ de la philosophie des normes, qui est son terrain de naissance, à celui de la philosophie de la connaissance. Le premier motif est le recours assez invasif au langage du choix et de la décision dans l'épistémologie contemporaine. On est désormais très loin de l'idée antique d'une connaissance acquise par activation de l'intellect passible sous l'action des intelligibles, ou même de l'idée moderne d'une raison universelle illuminant les esprits particuliers dans leur recherche de la vérité. Le vocabulaire de l'action, de la pratique, donc de la décision et du choix, a pénétré dans l'épistémologie. On sélectionne des hypothèses, on adopte des conventions, on préfère des théories à d'autres, on opte pour une ontologie austère plutôt que pour une ontologie prolifique, etc. Le sujet connaissant n'est plus un sujet qui contemple, mais un sujet qui opère et qui, pour cette raison, doit faire des choix et prendre des décisions. S'il contemple toujours, c'est en bout de chaîne. Il doit désormais opérer pour contempler et donc choisir, prendre des décisions épistémiques. Le second motif qui me conduit à vouloir creuser le concept de décisionnisme, motif qui sera au cœur de mon exposé, est d'ordre métaphilosophique. Si la conscience d'un certain pluralisme des doctrines, des systèmes ou simplement des solutions aux problèmes philosophiques a toujours accompagné le travail philosophique, il est impossible que la persistance de ce pluralisme et sa constante renaissance sous des formes renouvelées ne finissent pas par inquiéter la raison philosophante. Qu'est-ce qu'une entreprise cognitive qui semble incapable de trancher définitivement la moindre question, de prouver le moindre théorème? Que faisons-nous, nous qui appartenons à cette corporation, et ne faut-il pas nous résoudre à entendre ce que Gorgias opposait avec morgue à Socrate, que c'est une activité tout juste bonne à distraire des adolescents que celle qui consiste à soulever de graves problèmes philosophiques et qu'un homme d'âge mûr et sage doit savoir sur ce point à quoi s'en tenir et passer à autre chose? Alors, je ne prétendrai évidemment pas sauver notre corporation de ce reproche, mais je voudrais explorer la possibilité d'y répondre d'une manière qui tranche avec ce qui me semble être les deux principales possibilités auxquelles on peut songer face à ce problème du pluralisme résistant des positions philosophiques. Première position traditionnelle à laquelle on peut songer est ce que j'appellerais le dogmatisme du futur. Elle consiste au fond à voir dans la philosophie une activité cognitive qui a simplement besoin de plus de temps que d'autres entreprises cognitives pour atteindre ses fins. Autrement dit, le pluralisme, pour persister en philosophie plus longtemps qu'ailleurs, n'en aurait pas moins vocation à être un beau jour surmonté, à force de progrès dans l'analyse des problèmes et dans l'argumentation des solutions envisageables. Sans nécessairement espérer la découverte d'arguments apodictiques, le progrès dans l'analyse argumentative finirait par éliminer peu à peu certains partis et certaines solutions, ou, à l'inverse, certains problèmes finiraient par être reconnus comme définitivement insolubles. Cette position me semble notamment exposée par Cournot. Je vais citer un passage de l'essai sur les fondements de nos connaissances sur les caractères de la critique philosophique. Cournot écrit ceci: « De ce que la philosophie ne comporte pas la marche progressive des sciences, il ne faut nullement conclure qu'elle reste étrangère au perfectionnement général. Le germe de toutes les autres questions se retrouve sans doute dans les textes obscurs des Brahmes, sous les emblèmes bizarres des prêtres d'Égypte, dans les subtilités dialectiques des Grecs ou sous la sèche argumentation des scolastiques. Mais la philosophie n'en fait pas moins des progrès, au moins en ce sens que les questions sont plus nettement posées, les difficultés mieux classées et, leur subordination mieux établie. Qu'on rapporte les systèmes à des types génériques, qu'on en suit la filiation et les affinités, qu'on en pèse les probabilités et qu'on apprécie avec justesse la portée des conséquences qu'ils renferment. La philosophie procède encore par voie d'exclusion. Si elle n'atteint pas directement à la solution des problèmes, elle peut, par une analyse souvent rigoureuse, indiquer la raison qui les rend insolubles ou susceptibles d'un nombre de solutions soit limité, soit indéfini. Elle montre l'impossibilité de certaines solutions en établissant leur incompatibilité, soit avec les données de la science, soit avec les lumières naturelles et la conscience du genre humain, et elle circonscrit ainsi l'indétermination d'un problème que la nature des choses n'a pas rendu susceptible d'une solution déterminée et vraiment scientifique. Alors, cette citation de Cournot se trouve donc dans « L'essai sur les fondements de nos connaissances », à la page 380-381 dans l'édition Vrin. Donc voilà ce que j'appelle le dogmatisme de l'avenir, c'est-à-dire un pari sur la possibilité petit à petit de progresser dans la résolution des problèmes. En regard du dogmatisme du futur, on peut placer ce qu'on pourrait appeler un scepticisme de lassitude. Lassitude parce qu'on peut effectivement éprouver un tel sentiment en voyant des auteurs se demander inlassablement si nous avons un libre arbitre ou s'il existe des entités universelles, sans faire autre chose que diversifier et raffiner un peu plus les possibilités. Ce scepticisme métaphilosophique peut évidemment prendre diverses formes, allant de la répudiation de la philosophie théorique à sa transformation en pratique conversationnelle divertissante, mais l'idée reste qu'un esprit affranchi ne pourrait pas ne pas se lasser de voir la vertu batailler contre le plaisir, l'égalité contre le mérite, les universaux contre les tropes, l'endurantisme contre le perdurantisme, le descriptivisme contre le référentialisme direct, etc. Il voudrait passer à autre chose. Alors, entre ces deux réponses donc traditionnelles au défi du pluralisme philosophique, le dogmatisme du futur, le scepticisme de lassitude, le problème que je veux soulever est donc de savoir s'il y a place pour une troisième attitude métaphilosophique que j'appellerais donc décisionniste. Sur le papier, l'avantage du décisionnisme est qu'il paraît envelopper une certaine justification ou une certaine normalisation du pluralisme. Le pluralisme ne sera pas en effet un défaut provisoire ou définitif, mais une chose tout à fait normale, si de manière constitutive, une décision doit conclure ou achever l'exercice de la raison philosophante. La raison aura besoin du pluralisme pour pouvoir choisir ou se décider. Mais quoique sur le papier le décisionnisme paraisse envelopper une justification ou une normalisation du pluralisme, il n'est pas évident de voir ce que pourrait être un décisionnisme en matière philosophique et plus généralement en matière épistémologique. Alors, l'introduction du vocabulaire de la décision et du choix pour résoudre le problème du pluralisme philosophique semble dater de Fichte, qui, dans sa première introduction à la doctrine de la science de 1797, écrit, je le cite, « Ce que l'on choisit comme philosophie dépend aussi de l'homme que l'on est. Un système philosophique n'est pas en effet un instrument mort que l'on pourrait prendre ou rejeter selon son bon plaisir, mais il est animé par l'esprit de qui le possède. » Et, fin de citation. Et Fichte présente, dans les termes de ce décisionnisme existentiel, le choix entre spinozisme et idéalisme, qui lui paraît résumer le pluralisme des philosophies. Au-delà de Fichte, mais chez des auteurs qui, je pense que c'est important de le souligner, ont été des commentateurs attentifs de l'auteur de la doctrine de la science, le recours au vocabulaire de la décision et du choix se retrouve chez Martial Guéroux, Jules Villemain, prédécesseur donc de Jacques Bouvresse dans cette maison, et auquel Jacques Bouvresse a consacré ses cours des années 2007-2008, si je ne m'abuse. Reste que dans la métaphilosophie de Guéroux, et surtout dans celle de Jules Villemain, qui sera l'arrière-plan de mon exposé, si la réponse au défi du pluralisme des systèmes ne paraît se trouver ni dans le dogmatisme du futur, ni dans le scepticisme de lassitude, mais dans une décision ou un choix métaphilosophiquement assumé, ce qui est impliqué par cette solution concernant le statut de la philosophie n'est pas clairement explicité et systématisé. En particulier, il n'est pas toujours évident de savoir si ces auteurs parlent d'une décision qui soit un pis-aller, faute de preuves apodictiques en faveur d'un système ou d'un autre, ou bien s'ils parlent d'une décision qui est le débouché normal de l'exercice de la raison philosophante. Est-ce qu'on doit se décider faute de preuves concluantes dans un sens ou dans un autre, ou bien est-ce qu'on doit se décider parce que c'est là la réponse normale à ce qu'est un système philosophique ? Alors le problème que je me propose de traiter est donc le suivant, si je le ramène à une question, en songeant donc principalement, voire exclusivement, au pluralisme qui règne en philosophie, peut-on définir un authentique décisionnisme épistémologique qui ferait de la décision la réponse adéquate, normale, définitive à la reconnaissance d'une pluralité irréductible de solutions théoriques? Alors mon idée, peut-être un peu sous-jacente à mon exposé, est que, en essayant de définir a priori, comme je vais le faire, les conditions d'un tel décisionnisme, on pourra en déduire une caractérisation de ce que devrait être une théorie philosophique pour qu'il soit légitime de se décider en sa faveur. Et en particulier pour que la décision ne soit pas un pis-aller imposé par une situation d'incertitude épistémique, provisoire ou définitive, mais un mode normal d'exercice de la raison philosophante. Alors, je vais d'abord commencer par essayer de caractériser ce qu'on peut associer au concept de décisionnisme. Dans son domaine de naissance, la philosophie des normes juridiques et plus généralement des normes pratiques. Car si le concept de décisionnisme n'est pas une catégorie standard en épistémologie, évidemment, il faut reconnaître que même dans son domaine de naissance, en philosophie des normes, le concept de décisionnisme n'est pas non plus une catégorie tout à fait usuelle ou normalisée. Son introduction explicite par Carl Schmitt dans sa théologie politique et son association à la doctrine particulière de cet auteur explique peut-être la difficulté à associer à ce mot un concept d'application générale plutôt qu'une doctrine particulière. Alors, il me semble toutefois possible de construire un concept général de décisionnisme en philosophie des normes qui n'inclut la doctrine propre de Carl Schmitt que comme une application particulière, une variante particulière parmi d'autres possibles. Ce concept général, on peut, à mon sens, le dériver d'un passage du Léviathan latin de Hobbes, c'est une formule très célèbre, dans le contexte d'une analyse de la loi civile et de l'interprétation de la loi civile, Hobbes écrit de manière assez lapidaire « Autoritas non veritas facit legem ». C'est l'autorité et pas la vérité qui est constitutive de la loi, qui fait la loi. C'est au chapitre 26 du Léviathan latin. Alors, si on laisse de côté, si on laisse donc de côté l'intention propre de Hobbes dans ce passage, le point essentiel dans la formule de Hobbes est l'alternative de l'autorité et de la vérité. Considérons pour essayer de donner une interprétation schématique, simple, mais je pense correcte de cette formule, considérons donc la norme selon laquelle on doit rendre ce qu'on a emprunté. La thèse décisionniste veut que la normativité de cette norme soit fondée sur l'autorité qu'il a instituée en fonction normative, en position normative. Ce que le décisionnisme exclut, c'est donc la thèse qui veut qu'il y ait des contenus qui soient intrinsèquement normatifs, des contenus que la raison du législateur ou la raison pratique du sujet individuel nous permettrait de reconnaître. Rendre ce qu'on a emprunté, pour rester sur cet exemple, est une possibilité d'action qui n'est pas plus normative ou obligatoire que son contraire. N'importe quel contenu est en principe normativable, si on me permet ce néologisme, il suffit qu'il soit choisi à ce titre par l'instance habilitée à instituer des normes. L'essence du décisionnisme, c'est donc, me semble-t-il, en philosophie des normes, l'opposition du choix instituant et de la découverte rationnelle, variante moderne du débat médiéval sur le rapport entre volonté et entendement en Dieu, et surtout écho de l'antique problème de Lotifron. Tout décisionnisme en matière normative se caractérise par la thèse minimale qu'une décision est requise pour qu'un contenu soit constitué en norme. Cette décision est la raison de la normativité des normes. Dans le cas des normes juridiques ou collectives, cette décision est le fait d'un souverain, d'où la doctrine de Schmitt, ça permet de savoir qui est le souverain. Dans le domaine des normes morales individuelles, elle est le fait du sujet moral qui se décide pour telle ou telle famille de normes de conduite. Dans les deux cas, il s'agit toujours d'opposer la décision qui rend normatif un contenu à la reconnaissance rationnelle de la normativité intrinsèque de ce contenu. Alors, il me semble, en songeant évidemment à mon objet, sur lequel je vais venir après, qui n'est pas du tout l'énorme, que le point essentiel dans ce concept de décisionnisme, c'est le rôle dévolu à la décision. Considérons à nouveau le contenu que j'ai pris comme exemple, rendre à autrui ce qu'on lui a emprunté. Un rationalisme normatif, donc la position antithétique à celle d'un décisionnisme, un rationalisme normatif se laissera décomposer en deux composantes. Une composante métaphysique, correspondant à la thèse que ce contenu est intrinsèquement normatif, qu'il représente en soi quelque chose qu'on a à faire, hein, quelque chose qu'on doit faire. Et une composante épistémique, donc une composante métaphysique, il y a des normes objectives, et une composante épistémique correspondant à la thèse selon laquelle la raison peut connaître ou reconnaître la normativité intrinsèque de ce contenu. C'est-à-dire la raison est capable de reconnaître les contenus qui ont une valeur intrinsèquement normative. Maintenant, en face de ce rationalisme normatif, avec cette double composante, donc métaphysique et épistémique, le décisionnisme repose sur la négation de la composante métaphysique, c'est-à-dire il n'y a pas de contenu intrinsèquement normatif. Un contenu est rendu normatif par une décision ou un choix, mais en lui-même, tout contenu est anormatif. Alors le problème, c'est comment qualifier la position qui accepterait la composante métaphysique du rationalisme normatif, c'est-à-dire il y a des contenus intrinsèquement normatifs, mais qui rejetterait sa composante épistémique. C'est-à-dire, nous pouvons reconnaître avec évidence quelles sont les normes objectives, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est important. Donc la conception qui poserait qu'il y a bien des contenus intrinsèquement normatifs, mais qui ajouterait que la raison humaine n'est pas équipée pour les reconnaître avec évidence. Alors, on pourrait être tenté de rendre cette différence en distinguant deux décisionnismes, un décisionnisme épistémique et un décisionnisme constituant. Mais il me semble plus conforme à la logique des choses de réserver le concept de décisionnisme au décisionnisme donc, que j'appelle ici constituant, et de qualifier de probabilisme normatif la position qui confie à la décision la tâche de trancher une incertitude ou de suppléer à un manque d'évidence. Donc, le décisionnisme en philosophie des normes, ce n'est pas la thèse qu'il faut trancher par un choix ou une décision les débats non concluants sur les normes à instituer. Le décisionnisme, c'est la thèse qu'il faut décider quel contenu sera une norme. Le décisionnisme s'oppose donc de ce point de vue à la fois au rationalisme et au probabilisme normatif. Car ces deux positions ont en commun la thèse métaphysique selon laquelle il y a des contenus intrinsèquement normatifs. Ces deux positions se distinguant seulement dans le registre épistémique, le rationalisme posant que ces contenus sont connaissables par la raison humaine, le probabilisme le niant. Alors, avant d'exploiter ces quelques distinctions pour l'objet qui m'intéresse, c'est-à-dire le décisionnisme, un éventuel décisionnisme épistémologique, je voudrais introduire une dernière distinction concernant le décisionnisme en matière normative. Si on peut opposer donc le décisionnisme d'un côté et le rationalisme, le probabilisme normatif de l'autre, on peut aussi distinguer, je pense, deux formes de décisionnisme. Il suffit pour les distinguer de s'interroger sur la décision qui fait la norme. Est-ce que cette décision est un engagement existentiel absolu, un choix de soi, ou l'expression d'une volonté de puissance, ou bien cette décision qui fait la norme est-elle basée sur de certaines raisons, tirées par exemple des conséquences de telle ou telle décision normative ou normativante, du contexte dans lequel la norme est instituée, etc. Si on a, me semble-t-il, présent à l'esprit la doctrine de Carl Schmitt d'un côté, celle de Hobbes de l'autre, il me semble possible de distinguer un décisionnisme qu'on peut appeler existentiel, donc qui serait la première version, c'est-à-dire un choix de soi ou expression d'une volonté de puissance, et un décisionnisme qu'on peut appeler prudentiel ou raisonné. Le point essentiel toutefois est qu'un décisionnisme prudentiel ou raisonné ne nous ramène pas au rationalisme normatif. C'est-à-dire, il peut y avoir, comme on dit, vous comprenez, mon idée c'est qu'il peut y avoir une forme de rationalité à l'intérieur du décisionnisme, mais ça ne nous reconduit pas à une forme de rationalisme. Donc le point essentiel donc, est qu'un décisionnisme prudentiel ou raisonné ne nous ramène pas donc, au rationalisme normatif. Choisir de rendre normatif le contenu rendre à autrui ce qu'on a emprunté, au motif par exemple que la société sera plus stable si c'est ce contenu plutôt que son contraire qui est élevé au rang de norme, ce n'est évidemment pas la même chose que juger qu'il est intrinsèquement obligatoire ou juste de rendre à autrui ce qu'on lui a emprunté. Néanmoins, ceci suggère que si à un certain point de vue le décisionnisme s'oppose au rationalisme, à un autre point de vue, on peut concevoir un décisionnisme non pas tant rationnel que raisonné. Ça, le point. Alors, le problème que je veux traiter maintenant, en m'appuyant sur ces quelques distinctions, c'est est-ce que on peut transposer, au fond, du plan de la philosophie des normes, à, où il représente, je pense, une position cohérente, à celui de la philosophie de la connaissance, ce concept de décisionnisme. Alors, le point crucial à souligner, et c'est un peu le principal motif du détour que je viens de faire par la philosophie des normes, c'est que parler d'un décisionnisme épistémologique ne peut pas se résumer à la thèse que la décision a une place dans le processus de connaissance. Le décisionnisme, ce n'est pas la thèse tout à fait triviale selon laquelle on prend des décisions, voire la thèse peut-être un peu moins triviale selon laquelle il est bel et bon de prendre des décisions. Le décisionnisme n'est pas non plus la thèse selon laquelle la décision supplée la connaissance, supplée l'évidence. La décision supplée la connaissance, donc lorsque l'évidence fait défaut ou qu'un parti doit être pris. Le décisionnisme, c'est la thèse que la décision s'impose parce qu'il n'y a rien à connaître ou à reconnaître, de sorte qu'on ne peut adopter une position décisionniste que là où l'alternative décision-conclusion ou constitution-reconnaissance est ouverte. Alors en philosophie des normes, on vient de voir que cette alternative était ouverte lorsque on s'interrogeait sur le fondement de la normativité des normes. On peut donc avancer que si un décisionnisme épistémologique est concevable, ce sera à titre de solution possible à une alternative du même genre, mais relative non pas à la normativité pratique d'un contenu, mais à sa normativité théorique. Si un contenu théorique, une proposition, un système de propositions, une théorie, est censé devoir répondre à une certaine norme N ou avoir une certaine valeur V, alors le lieu qu'un décisionnisme épistémologique pourra occuper sera celui du fondement de cette norme ou de cette valeur. Cette norme sera considérée non pas comme intrinsèque au contenu théorique, mais comme injectée dans ce contenu par une décision qui pourra à nouveau être existentielle ou prudentielle. Alors, tout provisoire que soit ce raisonnement, il peut déjà, me semble-t-il, nous conduire à écarter une interprétation possible, à première vue assez triviale, mais en réalité, me semble-t-il, difficilement acceptable ou compréhensible de ce que serait une décision en matière philosophique, de ce que serait une décision qui trancherait le problème du pluralisme des philosophies, des positions philosophiques. Comme je viens de le rappeler, il n'y a pas du décisionnisme partout où il y a de la décision. Il y a des décisions qu'on peut appeler inoffensives, que je vais appeler inoffensives, des décisions qui ne conduisent pas à introduire une philosophie, une position décisionniste. Or, des décisions inoffensives de ce type, il y en a aussi, évidemment, en matière épistémique. Un premier exemple de décision inoffensive de ce type, dans le domaine épistémologique, est constitué par les décisions que le sujet connaissant doit prendre afin de s'engager dans un processus d'acquisition d'informations, a fortiori, d'acquisition de connaissances théoriques, explicatives et prédictives sur le monde. Dans ce registre, il est trivial de remarquer que l'on choisit de s'intéresser à quelque chose ou que l'on décide de creuser une hypothèse de recherche. La décision est ici aussi indispensable et inoffensive que lorsqu'il s'agit de déterminer ce que l'on va se faire à manger, ou une décision de ce type. Un autre exemple de décision inoffensive, caractéristique de l'épistémologie contemporaine, est celui des décisions qu'il faut prendre lorsque, dans un procès de connaissance, on se trouve en situation de sous-détermination empirique. Si on admet qu'une théorie ne nous est pas passivement imposée par le monde, qu'elle est activement confrontée à lui, mais qu'elle l'est seulement à ses marges, par le biais de ses conséquences empiriquement testables, alors une zone d'indétermination est ouverte qui oblige à faire des choix, soit à conserver une théorie en la renforçant par des épicycles, soit à l'abandonner. Donc la décision est à nouveau ici inoffensive parce qu'elle ne contribue en rien à donner une valeur autre que subjective au contenu choisi. Choisir de conserver une théorie, choisir de lui ajouter des épicycles, ne contribue notamment en rien à rendre vraie cette théorie, mais au mieux à préserver son adéquation empirique. Enfin, un troisième exemple de décision épistémique que j'appelle inoffensive, et qui concerne plus directement notre objet, est celui des décisions en matière probable ou en situation de complète incertitude épistémique. On peut parier en faveur de la vérité d'une certaine proposition ou d'une certaine théorie, ou bien on peut décider d'y croire, lorsque, du moins, on est dans la nécessité de prendre un parti, lorsque, selon le mot de Pascal, on est embarqué et qu'il nous faut parier. Or, parier sur P, décider de croire que P, ce n'est évidemment pas la même chose que décider que P. Il n'y a rien de grammaticalement problématique dans l'idée que l'on décide de croire ou d'assentir à une proposition incertaine. S'il y a un problème, il est plutôt psychologique ou empirique. Il n'est pas évident que l'on parvienne effectivement à croire quelque chose après avoir décidé de le croire, et il est vraisemblable qu'une décision de croire soit moins une décision de commencer à croire qu'une décision de continuer à croire ou de ne pas résister à croire. Quoi qu'il en soit de ce problème, ces différents registres d'implication de la décision et du choix dans la connaissance sont, me semble-t-il, étrangers à toute forme de décisionnisme, parce que, et c'est là le point central, la décision porte moins sur des contenus que sur des attitudes à l'égard de ces contenus. Ce que le sujet décide, ce n'est pas qu'il pleut, par exemple, mais c'est de se demander s'il pleut, c'est de continuer d'accepter une théorie qui implique qu'il pleut, ou bien c'est de croire qu'il pleut. Donc toutes ces formes de décision n'impliquent aucune forme de décisionnisme parce qu'elles restent extérieures à la valeur théorique du contenu de l'attitude et en particulier à sa valeur de vérité. Elles sont parfaitement compatibles, du moins les deux dernières, avec l'erreur et le sujet qui fait ses choix fait donc simplement un choix en situation de risque ou en situation d'incertitude épistémique. Il suit de là, me semble-t-il, que si ce à quoi le pluralisme philosophique nous contraint, c'est à une décision portant non sur les systèmes eux-mêmes mais sur l'attitude à adopter à leur égard, s'il s'agit par exemple de se décider à croire aux tropes, à croire au monde possible, à croire aux objets abstraits, à croire au libre arbitre, alors cette affirmation est, me semble-t-il, à un premier niveau trivial et à un second niveau incohérente. Trivial d'abord au sens où elle revient simplement à affirmer que, à titre individuel, les philosophes sont vraisemblablement animés par des convictions, qu'en général, ils croient ce qu'ils disent, c'est une sorte d'honnêteté minimale, donc qui explique les convictions qui expliquent leur prise de parti. Mais en réalité, cette position est incohérente parce que, d'un point de vue métaphilosophique, qui est celui auquel on se place, il est difficile de comprendre pourquoi il faudrait se décider à croire une chose ou une autre si aucune n'a plus de titre probatoire à faire valoir en sa faveur. Comment, d'un point de vue métaphilosophique, pourrait-on comprendre que l'on s'expose ainsi volontairement à l'erreur en donnant son assentiment à ce qui n'est pas prouvé ? L'attitude idoine ne devrait-elle pas être, donc, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire la patience du dogmatisme du futur ou la lassitude du scepticisme de lassitude, mais dans les deux cas, une forme de suspension et non pas d'engagement du jugement. Il arrive évidemment que nous ayons, lorsqu'on est placé en situation d'incertitude épistémique, à faire néanmoins des choix, que nous soyons embarqués, mais il est difficile, me semble-t-il, de voir où serait la nécessité d'opter, par exemple, entre les tropes et les universaux, ou entre l'endurantisme et le perdurantisme, ou entre le matérialisme réductionnisme et le matérialisme fonctionnaliste, c'est-à-dire où est la pression existentielle qui nous forcerait absolument à faire un choix entre ces positions-là. Il est donc clair, me semble-t-il, que si choisir un système philosophique, ça veut dire choisir de croire un système philosophique, alors, premièrement, il n'y a aucun décisionnisme là-dedans, et surtout, il est douteux, me semble-t-il, qu'on ait là une alternative viable à ces postures métaphilosophiques traditionnelles que sont le dogmatisme du futur, donc, et le scepticisme de lassitude. Au mieux, on aura défini une forme de probabilisme métaphilosophique, mais ce probabilisme métaphilosophique ne sera alors soit qu'un pis-aller dans l'attente du dogmatisme du futur, soit que l'expression d'une certaine résistance à la perspective de passer à autre chose qui est la rançon du scepticisme de lassitude. Alors, où trouver, par contraste avec ces décisions inoffensives, une décision décisionniste, une décision impliquant une forme de décisionnisme propre au champ épistémologique ? Alors, considérons une théorie philosophique T quelconque qui a pour concurrente théorie T prime, T seconde, donc par exemple endurantisme, perdurantisme, ce que vous voudrez, tropes universaux, ce que vous voulez. Nous venons d'écarter une interprétation triviale de ce que pourrait être une décision en faveur de T, interprétation d'après laquelle se décider pour T signifierait simplement décider de croire que T. Pour qu'une forme de décisionnisme soit impliquée par l'invocation d'une décision, il faut que la décision porte non sur l'attitude du sujet à l'égard de T, à l'égard de la théorie, mais sur T elle-même. Il faudrait plus précisément que T acquiert une certaine valeur V du fait d'être l'objet ou le contenu de cette décision. Alors, à quelles conditions un schéma de ce genre est-il possible ? Alors, il suffit, me semble-t-il, d'envisager cette possibilité pour qu'une sorte d'abîme grammatical s'ouvre devant nous. Supposons que T soit une théorie qui affirme qu'il y a des universaux et que nous avons un libre arbitre. On comprend assez bien ce que veut dire décider de croire qu'il y a des universaux et un libre arbitre. Mais que signifierait décider qu'il y a des universaux et un libre arbitre ? L'expression « décider qu'il y a un libre arbitre » ou « décider que nous avons un libre arbitre » est tellement grammaticalement étrange que nous avons tendance à l'entendre comme signifiant « décider de croire que c'est le cas », « accepter que ce soit le cas », « faire comme si c'était le cas », mais certainement pas « faire que ce soit le cas ». Ce que cet abîme donc grammatical révèle, c'est banalement, me semble-t-il, l'incompatibilité du décisionnisme en matière épistémologique avec une compréhension standard de la vérité. Si on admet qu'une proposition ou une théorie sont rendues vraies par le monde, par la manière dont les choses sont dans le monde, alors il est trivialement impossible d'affirmer qu'une proposition ou une théorie sont rendues vraies par une décision. Si « vrai » veut dire qu'il y a un vérifacteur dans le monde, alors il est trivialement impossible que « vrai » puisse être défini par qui est institué tel par une décision. Alors, cette objection au décisionnisme épistémologique, je l'indique d'entrée de jeu, me semble robuste. C'est même, à mon sens, une contrainte qui pèse sur toute tentative d'élaborer un concept raisonnable de décisionnisme applicable en matière épistémologique, que celui-ci ne doit pas impliquer que la vérité d'une proposition ou d'une théorie pourrait être constituée par ce qu'on pourrait appeler une décision véritative. Une telle position nous reconduirait en effet simplement aux vues de Protagoras, telles que rapportées par Platon, à l'idée que c'est l'homme qui est la mesure de toutes choses, de celles qui sont en tant qu'elles sont et de celles qui ne sont pas en tant qu'elles ne sont pas. Le fait que Protagoras ait des disciples variés à notre époque ne nous paraît pas rendre sa position plus acceptable. Elle représente sans aucun doute sur le papier une certaine forme de décisionnisme épistémologique, mais si c'est là la seule forme de décisionnisme envisageable, alors mieux vaut sans doute le dogmatisme du futur ou le scepticisme de lassitude. Reste qu'on peut essayer de creuser encore la piste d'un décisionnisme qui ne soit pas une forme de ce que j'appellerais néo-protagoracisme. Excusez-moi de multiplier les ismes, mais enfin bon, c'est des ismes métaphilosophiques, ceux-là, ils sont inoffensifs. Alors, revenons donc à notre théorie T avec ses concurrentes T' et T seconde. Nous venons de voir qu'un décisionnisme donc protagoracien, ce serait la thèse qu'aucune de ces théories ne possède une valeur de vérité intrinsèque, mais que l'une d'entre elles devient vraie ou est constituée comme vraie du fait qu'on se décide en sa faveur. Donc un décisionniste protagoracien, il faut le remarquer, partage avec son opposant rationaliste la thèse qu'une théorie doit posséder une valeur de vérité. Mais il s'oppose à lui sur le fondement ou la source de cette valeur de vérité. Maintenant, on peut envisager une alternative plus radicale à la position du rationaliste, comme du probabiliste d'ailleurs. Elle consiste simplement à nier que les théories en question aient une valeur de vérité. Alors, dans son livre sur les systèmes philosophiques, Jules Villemain écrivait, je le cite, que, à ses yeux, donc, le concept de vérité philosophique est inadéquat et inapproprié, au moins si le mot « vérité » est pris au sens ordinaire. Fin de citation. Mais, quoique ce passage puisse laisser entendre qu'il pourrait y avoir un autre sens du mot « vérité », un sens spécial pour les systèmes philosophiques, et qu'on pourrait donc imaginer que cette vérité spéciale puisse, à la différence de la vérité ordinaire, être constituée par un acte décisionnel, nous ne voyons pas très bien ce que pourrait être un concept de vérité spécialement adapté à la philosophie. En revanche, autrement dit, s'il y a de la vérité en philosophie, c'est de la vérité normale. En revanche, de même que selon un certain philosophe, il y a de l'autrement qu'être, on peut envisager, je dis bien envisager, qu'il y ait pour une théorie, et spécialement pour une théorie philosophique, de l'autrement qu'être vrai. Alors, à quoi correspond cette perspective ? Considérons d'abord une analogie un peu égarante, mais néanmoins utile à titre liminaire. Supposons un monde dans lequel tous les enfants fréquentent des écoles bilingues et vivent dans des familles bilingues. Ils maîtrisent donc deux langues, la définition de ce que c'est qu'un monde de ce type. Supposons que dans ce monde, à certains égards idéal, il y ait cependant une loi un peu perverse qui oblige chaque enfant à l'âge de 16 ans à opter en faveur de l'une ou l'autre de ces deux langues. Se décider en faveur d'une langue voudra dire ici simplement, banalement, se mettre à parler exclusivement une des deux langues. aucune langue n'est évidemment vraie ou fausse, hein, de sorte que, dans ce cas-là, dire que dans ce monde, chacun se décide en faveur d'une langue ne crée aucune tension grammaticale particulière. Alors, cette analogie, qui, je répète, juste une analogie introductive, pourrait laisser penser que la piste que je vais présenter est une nouvelle version des vues de Carnap. Mais même si je ne pense pas que les vues de Carnap méritent d'être considérées comme des vieilleries ridicules, pas pourquoi, il me semble cependant difficile de dire qu'un système philosophique ou une théorie philosophique est un langage ou la construction d'un langage. Une théorie qui s'efforce de nous prouver que nous avons un libre arbitre, par exemple, ou que nos états mentaux sont identiques à nos états cérébraux, ou qu'il y a des universaux, n'est pas un langage ou la construction d'un langage. Ce qui est vrai, en revanche, et c'est mon point principal, c'est qu'une théorie philosophique de ce genre, à la différence d'une théorie scientifique, d'une théorie positive, ne laisse pas inchangé le langage ordinaire. Et on peut même avancer, dans l'hypothèse, que c'est là un critère de distinction entre une théorie scientifique ou positive et une théorie philosophique. Les théories scientifiques n'influencent qu'à la marge le langage ordinaire, essentiellement en y introduisant des mots nouveaux, par exemple le mot « oligo-élément », ou le mot, je sais pas, c'est vraiment un mot scientifique, non, ou le mot « système immunitaire ». Mais une théorie philosophique pénètre plus profondément dans le langage ordinaire. Elle peut avoir pour effet de condamner certains énoncés ou certaines manières de parler ordinaires, ou bien à l'inverse, d'introduire des énoncés ou des manières de parler extraordinaires. Par exemple, c'est un énoncé extraordinaire que l'énoncé « ma fibre cérébrale C est activée » en lieu et place d'un banal « j'ai mal ». Ou bien que l'énoncé « j'arrête de fumer pour permettre à celui qui me succédera dans ce corps de ne pas mourir du cancer du poumon » à la place d'un simple « j'arrête de fumer pour vivre plus longtemps ». De même, un énoncé aussi banal que « l'humilité est une vertu » ou « l'homme est la plus noble des créatures » sera retiré du langage et remplacé par de lourdes paraphrases si on entend prouver qu'il n'y a pas d'entité universelle. Alors, si on admet ce point, c'est-à-dire ce critère, au fond, qu'une théorie philosophique se caractérise par le fait qu'elle ne laisse jamais inchangé le langage ordinaire, pas simplement parce qu'il y introduit des mots, mais parce qu'elle y modifie des jeux de langage de façon plus systématique, il est alors possible de faire un pas au-delà et de poser donc qu'une théorie philosophique n'est qu'une apparence de théorie, qu'elle est au vrai un détour, le détour que nous devons accomplir pour corriger le sens commun là où il pense, c'est-à-dire dans son langage. Alors, considérons pour fixer les idées une théorie philosophique du temps. À un premier niveau, on peut dire qu'une telle théorie cherche à énoncer des vérités à propos de ce qui tombe sous le concept de temps, de ce qui est dénoté par le mot « temps ». Mais à un autre niveau, le concept de temps n'est pas concentré dans un seul mot. Il est étalé sur des dizaines de mots comme « maintenant »,« demain »,« hier »,« dans 10 minutes », etc., qui fonctionnent de concert et selon certaines règles, au sein donc de ce que Wittgenstein appelle un jeu de langage, ici le jeu de localiser des événements dans le temps et de se localiser soi-même dans le temps des événements. À un premier niveau, on peut donc voir une théorie philosophique comme cherchant à exprimer des vérités à propos d'un objet, le temps. Mais à un autre niveau, on peut voir une théorie philosophique comme une tentative pour comprendre et, le cas échéant, pour corriger notre intelligence linguistique commune du temps. Comme si nous avions besoin d'en passer par un « qu'est-ce que le temps ?» pour comprendre et pour corriger notre façon ordinaire et linguistiquement étalée de parler du temps. Alors, cette interprétation, quoique formulée dans un idiome wittgensteinien, et bien sûr non wittgensteinienne, car Wittgenstein a soutenu, peut-être sous l'effet d'un certain scepticisme de lassitude, que le langage était en ordre, mais on peut parfaitement imaginer d'autres langages, d'autres jeux de langage. Or, imaginer d'autres jeux de langage, ce n'est pas seulement imaginer d'autres formes de vie, c'est aussi construire des théories philosophiques. Alors, qu'est-ce dès lors, me semble-t-il, à partir de là, qu'un décisionniste en matière épistémologique, et plus précisément en matière philosophique? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut imaginer de mettre sous ce concept? Ce n'est donc pas nécessairement un disciple de Protagoras qui oppose aux rationalistes traditionnels que c'est nous qui décidons de ce qui est et de ce qui n'est pas. Ce peut être aussi un disciple donc très infidèle de Wittgenstein qui oppose aux mêmes rationalistes traditionnels qu'une théorie philosophique n'a pas plus de valeur de vérité que Jules César n'est père ou impair. Car une théorie philosophique n'est qu'un détour d'apparence théorique en vue d'amender, de corriger, de réformer de manière systématique le langage ordinaire ou, si l'on préfère, le sens commun, l'intelligence commune du monde. Tandis que le rationaliste traditionnel voit la pluralité des théories philosophiques comme une pluralité d'opinions adverses sur ce qui est et ce qui n'est pas, le décisionniste y voit diverses manières de réformer de manière systématique le sens commun langagier. Or, entre ces diverses manières de réformer le langage commun, il est alors normal et nécessaire de choisir. Donc, on a en même temps une justification du pluralisme. Alors, cette réduction, ce que l'on pourrait appeler cette réduction des théories philosophiques à la grammaire, nous semble la seule façon de, non pas la vérité, mais la seule façon de donner un sens rationnel à l'idée que le pluralisme philosophique nous contraint à la décision. En effet, les seules interprétations alternatives sont soit que cette décision est un choix de croire, mais on vient de voir tout à l'heure que c'est au fond une interprétation banale, soit que cette décision est une décision véritative de type protagoracien. Ce qui est cependant énigmatique dans cette réduction à la grammaire, c'est la raison du choix. Que signifie choisir de décrire le monde dans un langage de qualité particulière ou choisir de décrire le monde dans un langage de qualité universelle? Ou bien choisir de décrire le monde en autorisant des énoncés comme « j'aurais pu ne pas venir » et le décrire en s'interdisant tout énoncé contrefactuel. Il n'est certes pas facile de retrouver dans cette interprétation le décisionnisme existentiel de Fichte. Mais qu'y aurait-il d'absurde à ce que l'on s'employât à tester une théorie philosophique en explorant et en expérimentant le langage qu'elle nous oblige à employer? Qu'y aurait-il d'absurde à ce que l'on prolonge une théorie philosophique en imaginant le langage qu'elle nous imposerait de parler systématiquement et en essayant non pas de vivre dedans, mais de décrire complètement le monde avec? La vérité est une valeur épistémologique importante, mais il n'y a pas que la vérité qui soit une valeur épistémologique. S'il est vrai que Socrate est sage, il est alors également vrai que la sagesse socratise. Il faut des théories philosophiques pour introduire ces manières différentes de restituer un même fait. Mais qu'y aurait-il d'absurde à ce que l'on cherchât à trancher entre ces théories en explorant chacun des langages qu'elles impliquent, en essayant de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'à quel degré de précision, de dissectivité, de granularité on peut aller avec un langage qui décrit le monde comme si la sagesse y socratisait plutôt que comme si Socrate y était sage. Alors, quoi qu'il en soit cependant de ce qui peut motiver un choix philosophique de ce type, il me semble, donc pour conclure maintenant mon propos, que la notion de choix ou de décision en faveur d'un système ou d'une classe de théorie philosophique ne représente une solution viable au défi du pluralisme que si on renonce à interpréter ce pluralisme dans les termes habituels d'une pluralité de possibilités de vérité. Car si les théories philosophiques sont vraiment des théories, c'est-à-dire si elles visent vraiment à dire comment est le monde, alors il est parfaitement déraisonnable de choisir entre elles si rien ne nous contraint à le faire, si rien ne fait que nous soyons embarqués. Or, nous ne voyons pas en quoi nous serions embarqués à opter entre les tropes et les universaux, entre l'endurantisme et le perdurantisme, entre la contingence et la nécessité, si ces alternatives sont du même type que « il y a ou il n'y a plus de tigre à Sumatra »,« il y a ou il n'y a pas de vie dans l'univers ». Une notion donc non triviale, c'est-à-dire décisionniste de choix ou de décision, n'a donc un autre sens de légitimité en matière épistémologique qu'en la comprenant comme une manière de déthéoriser, je mets ce mot entre parenthèses, de déthéoriser les théories, et donc en l'occurrence de déthéoriser les théories philosophiques, et de voir derrière chaque système ou chaque théorie un langage possible. Choisir un langage n'est certainement pas une chose aisée, mais c'est au moins une chose dont on peut concevoir qu'on puisse la faire et qu'on ait à la faire. La vraie limite au type de décisionnisme que je suis en train de décrire réside donc dans cette possibilité de déthéoriser les formes de pluralisme philosophique les plus résistantes. On peut sans doute déthéoriser en ce sens, c'est-à-dire procéder à une réduction grammaticale, l'alternative entre deux ontologies réalistes du type tropes universaux ou monde possible échéité. Mais il paraît plus difficile de déthéoriser des alternatives comme référence directe descriptivisme ou, dans un registre différent, théisme athéisme. Ce qui suggère que la réduction à la grammaire peut en même temps servir de crible pour séparer ce qui, en philosophie, relève de la théorie véritable et ce qui relève de la grammaire philosophique. Une classe de théorie philosophique véhicule une authentique visée cognitive si aucune d'entre elles n'a d'effet autre que marginal ou trivial sur nos jeux de langage ordinaires. Toute théorie qui, à l'inverse, entraîne une réforme profonde de nos jeux de langage n'est qu'une apparence de théorie. Elle ne véhicule aucune information sur le monde, mais nous invite simplement, par de longs détours, à le décrire autrement. Je vous remercie.
Merci beaucoup Stéphane Chauvier pour cet exposé dont j'imagine mal qu'il puisse ne pas susciter une discussion animée. Et donc je laisse à Jacques Bouveresse l'opportunité d'y réagir.
Je remercie chaleureusement Stéphane Chauvier de la contribution majeure qu'il a apportée, je crois, à une question qui m'a beaucoup préoccupé et qui continue d'ailleurs à me préoccuper. Le premier problème que j'aimerais lui soumettre, c'est est-ce que vous avez réussi à y voir plus clair que moi sur la réponse que donnent finalement Guéroux et Villemain à cette question de la décision ? Parce que, étant donné qu'ils sont convaincus l'un et l'autre, il faut décider, hein, il faut choisir. L'horreur absolue, c'est l'éclectisme, c'est clair pour l'un et l'autre. Donc il est indispensable qu'il y ait ces différentes... vous avez raison, ce qui sont, pour Villemain en tout cas, des possibilités de vérité, puisque lui-même utilise cette expression. Et il n'est pas question de se dire, il n'y a qu'à les laisser cohabiter paisiblement entre elles, voire se s'entre-déchirer. Hein. Il faut choisir. Alors, évidemment, dans le cas de l'un et l'autre, on a l'impression qu'il n'y a pratiquement aucune suggestion qui est faite, hein, concernant les mobiles de la décision. Hein. Guéroux dit que c'est une question de volonté. Hein. Il n'y a pas que l'intellect qui est impliqué, il y a la volonté. Et chez Villemain, c'est presque encore plus indécis. Alors, est-ce que vous avez une idée plus claire que moi de la réponse qu'il donne finalement à ce problème.
S'agissant de Guéroux, moi je pense quand même que c'est très très difficile de voir autre chose dans sa position qu'une... Alors ce que j'ai appelé, c'est pas sympathique de dire ça pour Guéroux, d'une forme de néo-protagoracie, c'est-à-dire que d'une certaine façon, sa thèse selon laquelle le philosophe construit la réalité en élaborant un système, ça revient à dire... Dans quelle réalité ? Choisir un système, c'est choisir, au fond, la réalité dans laquelle nous souhaitons vivre. Ça me paraît quand même une forme très, très sophistiquée de retour à une forme de protagoniste. Chez Jules Villemain, en revanche, j'admets qu'il y a une oscillation, me semble-t-il, entre, d'un côté, ce que j'appelle un décisionnisme inoffensif, c'est-à-dire choix de croire, je m'engage en faveur du réalisme, et en même temps, quand même, quelque chose qui est proche de ce contre quoi il a, je crois, tout le temps résisté, qui est la position de Quine, qui est un peu derrière ce que j'étais en train de décrire, mais qui est quand même, je pense, fortement impliqué par sa thèse selon laquelle les systèmes philosophiques, c'est en dernière analyse le choix d'un type d'assertion dans lequel exprimer systématiquement une description du monde. Donc au fond, qu'est-ce que c'est qu'un système philosophique à ses yeux ? C'est finalement le choix d'une forme dans laquelle on doit s'efforcer de décrire systématiquement le monde. Comme si au fond, le problème c'était le caractère disparate, éclectique du langage ordinaire avec ses multiples formes d'expression, ses multiples formes propositionnelles, et qu'au fond, le philosophe était celui qui devait chercher une espèce d'uniformité dans le langage. Donc, Villemain n'a jamais, je pense, enfin, mes yeux, assumé cette position, parce que justement, il refusait, au fond, cette idée de réduction de la philosophie, en dernière analyse, à être un détour pour simplement réfléchir sur le langage. Mais selon moi, c'est quand même la vérité de sa position. Voilà comment je dirais la chose.
C'est possible. Oui, à l'arrière-plan, chez Villemain, il y a évidemment le modèle axiomatique.
Hein. Bien sûr.
L'idée qu'une philosophie authentique, puisque c'est l'adjectif qu'il utilise, une philosophie authentique devrait prendre une forme axiomatique, ou en tout cas quasi-axiomatique. Donc il a toujours été absolument hostile à l'idée d'une philosophie non systématique, hein, ce qui explique évidemment la détestation assez violente qu'il avait du deuxième Wittgenstein. Mais enfin bon, ça c'est des problèmes dont il n'y a pas lieu de discuter aujourd'hui. Alors chez Villemain, le point crucial, c'est que la pluralité est intrinsèque. Ça, c'est tout à fait clair. Elle n'a absolument rien d'accidentel. Elle est intrinsèque pour une raison simple, c'est que il y a différentes façons de tracer la ligne de démarcation entre l'apparence et la réalité. C'est ça le point important. Donc, la pluralité est constitutive, ce qui signifie que pour lui, je suppose, il estime éviter aussi bien le risque qu'implique le dogmatisme du futur que celui qu'implique le scepticisme de la lassitude, puisque le pluralisme est intrinsèque. Il n'y a aucun espoir de décision à l'horizon. Donc on ne va pas se sentir chagriné par ça, puisqu'il ne peut pas être question d'une décision entre les différents systèmes. Et il ne peut pas être question non plus du scepticisme de lassitude, puisque on doit renoncer à essayer de décider. Ce qu'on peut faire et ce qu'on doit faire, c'est opter pour un système et explorer jusqu'au bout ses possibilités. Ça, c'est absolument essentiel. De ce point de vue-là, la position de Villemain me semble présenter une petite difficulté par rapport à ce que vous avez dit. Il faut vraiment prendre au sérieux chez lui, je crois, le fait que le pluralisme est intrinsèque.
Oui, ça c'est sûr.
Sens absolument fort. Bon. Dernière remarque. Ça concerne ce que vous avez dit à la fin, évidemment, c'est-à-dire la suggestion importante que vous avez faite, c'est-à-dire est-ce que on doit accepter l'idée que on risquerait de commettre une espèce d'erreur de catégorie, au sens de Ryle, quand on persiste à vouloir considérer les systèmes philosophiques comme susceptibles d'être vrais ou faux, puisque c'est un peu ce que vous dites, hein, c'est pas le terme qui est un terme qui ne convient pas. Donc ce qui est une position évidemment bien différente de celle de Villemain, qui continue visiblement à être hantée par l'idée de déterminer à propos des systèmes philosophiques s'il est possible ou non et dans quelle mesure de leur attribuer une forme de vérité et si oui, quelle forme de vérité. Alors la difficulté me paraît être que je ne suis pas aussi optimiste que vous sur la possibilité qu'aurait la philosophie de réformer le langage usuel. C'est-à-dire, est-ce que si on considère une théorie philosophique comme une option, enfin comme une proposition qui serait faite, non pas pour décrire ou essayer de comprendre le langage usuel tel qu'il est, mais pour essayer de le réformer et de l'améliorer. Parce que si on adopte cette idée, je crois qu'on a deux problèmes. D'abord, quels sont les exemples concrets qu'on pourrait invoquer quels sont les cas qu'on pourrait invoquer dans lesquels on aurait des raisons de dire que la philosophie a réussi son coup, si on peut dire, c'est-à-dire a réussi à imposer au langage usuel une réforme qu'on est en mesure de décrire de façon claire et convaincante, par exemple en ce qui concerne le temps. Bon, il y a beaucoup bien des gens ont dit que les théories scientifiques avaient cet effet, hein, de réformer l'usage ordinaire qu'on fait, par exemple, du concept de temps. Est-ce qu'on est passé d'un concept newtonien, disons, est-ce que dans la pratique usuelle du langage, il y a la théorie, la révolution relativiste a produit ou non un effet, hein, sur notre compréhension du temps. Puis on peut bien s'en dire, vous avez raison, se poser la même question à propos de la philosophie. Mais je ne suis pas certain donc que les chances de la philosophie d'imposer au langage usuel des réformes du genre de celles auxquelles vous songez, je ne suis pas certain que ces chances soient très élevées. En tout cas, j'aimerais avoir des exemples concrets de cas où l'opération a réussi. J'ai beaucoup de mal à en trouver. Et puis, surtout, il me semble que si... Pour que ce genre de choses soit possible, il faudrait qu'une de ces théories philosophiques en compétition, et dont vous nous dites qu'il faut pas, il faut qu'elles abandonnent leurs prétentions à la vérité, puisqu'il s'agit d'autre chose, il faudrait qu'une de ces théories philosophiques réussisse à l'emporter. Parce que pour pouvoir influencer le langage usuel dans le sens que vous envisagez, hein, c'est-à-dire pour pouvoir convaincre les usagers, les utilisateurs du langage usuel de réformer leur pratique linguistique, évidemment, sinon il va se trouver confronté lui-même à l'obligation, le langage usuel, si on peut le personnifier un peu, à l'obligation de choisir entre les théories philosophiques, ce que les philosophes eux-mêmes se sont révélés incapables de faire. Donc c'est vraiment un très gros problème. Mais je ne voudrais pas vous inciter pour autant au découragement complet, bien entendu.
Disons, je peux quand même juste vous reprendre sur un point sur mon idée. Enfin, encore une fois, j'ai essayé d'explorer une possibilité, mais enfin, mon idée est que de toute façon, le but d'une théorie philosophique n'est pas de faire que les gens se mettent à parler le langage que les philosophes imaginent être le langage systématique qu'ils devraient parler s'ils parlaient philosophiquement. Donc il y a quand même un jeu philosophique, si vous voulez, donc... Le fait que les gens ne parlent pas, ne décrivent pas le monde en termes endurantistes, si vous voulez, bon, ne me paraît pas impliquer nécessairement que ce langage ne serait pas viable. Un langage sans individu, par exemple, on peut l'explorer à fond, personne ne pourrait l'utiliser. Parce que le langage ne sert pas simplement à décrire le monde, ça, c'est l'idée de Wittgenstein, il sert à mille autre chose.
Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense que c'est une question qui est à la fois cruciale et extrêmement difficile. Je crois me rappeler que c'est Worth qui dit que les OPI utilisent un concept de temps qui est plus proche de celui de la relativité générale que
sinon.
Vous vous souvenez sûrement de ça. Oui. Pourquoi ont-ils ce concept-là ? Ce n'est pas parce qu'ils ont une science. Hein. Ils n'ont pas développé une science, ni une philosophie, hein, ni une philosophie qui leur a imposé ce genre de concept. Donc sous quel genre d'influence, hein, un concept comme celui de temps peut-il se modifier ? Par exemple, dans temps et récit, hein, Ricoeur insiste beaucoup sur le fait que, d'une certaine manière, c'est la littérature qui détient la clé, hein, de la compréhension de ce qu'est le temps, plus que la philosophie. Et à l'arrière-plan, il y a cette idée, effectivement, que l'intervention de la littérature est susceptible de modifier notre concept ordinaire du temps, et donc notre façon d'en parler. Ce qui fait que vous trouvez, évidemment, en présence de cette obligation, d'essayer de répondre de façon un peu plus précise à la question de savoir quels sont, sur ce point, les ressources de la philosophie, hein, sont-elles suffisantes pour être à la hauteur de ces prétentions redéfinies de cette façon ?